Le journal avec vous, Julie Paco, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous. Haïti, dévasté par un tremblement de terre, affronte maintenant une tempête tropicale. Des vents violents et des inondations majeures sont à craindre alors que des milliers d'Haïtiens n'ont plus d'abri. L'hôpital des Cayes est saturé de blessés, nous serons sur place. Qui ouvrira ses frontières aux réfugiés afghans? 3 jours après l'arrivée au pouvoir des talibans, la communauté internationale divisée sur la position à adopter. En France, les exfiltrés arrivent au compte-gouttes, mais plusieurs maires veulent répondre à ce devoir d'humanité, disent-ils. Commerçants chargent contrôleurs de passe sanitaire. Alors que ce dernier est étendu aux centres commerciaux depuis lundi, le secteur de la sécurité privée cherche désespérément des agents pour scanner nos QR codes.
À 7h45, il joue un flic pris dans le scandale de la brigade anticriminalité des quartiers nord de Marseille en 2012, accusé de trafic de raquettes. Il assume le parti pris. Gilles Lellouche dans Bac Nord, au ciné aujourd'hui, au micro Inter dans un quart d'heure.
France Inter.
C'est un calvaire sans fin pour les Haïtiens.
Après le terrible séisme qui a touché le sud-ouest du pays samedi, le bilan humain a été revu à la hausse. Près de 1900 personnes ont perdu la vie, 10 000 sont blessés. Les Haïtiens qui font face désormais aux pluies torrentielles de la tempête tropicale Grace, alors que les bâtiments qui tiennent encore debout sont très endommagés, comme l'hôpital des Cayes où Boris Loumagne s'est rendu hier après-midi.
C'est un des rares bâtiments à avoir tenu le choc. Mais malgré cela, pas question de dormir à l'intérieur de l'hôpital. Non, la plupart des patients passent la nuit dehors, malgré la pluie, comme Glézil et Jean-Denis.
On dort au monde dehors.
Vous avez peur qu'il y ait d'autres secousses?
Yes, oui. Oui, même à l'hôpital.
Et le petit dort dehors aussi?
Oui, bien sûr.
Il a quel âge?
3 ans.
Le garçon de Jean-Denis, le visage tuméfié, regarde Mathilde, une jeune femme accroupie au milieu des poulets et des flaques d'eau croupie.
Je suis en train de laver et de draps.
Et c'est des choses pour l'hôpital également?
Oui.
Vous avez du savon encore, de la lessive?
Non.
4 jours après le séisme, les produits de première nécessité sont toujours rares. Améthyste Arcelius est administrateur de l'hôpital.
Nous avons besoin du matériel maintenant pour faire les attelles. Okay? Nous avons besoin également de médicaments pour douleurs. La pharmacie que vous voyez là est vidée au fur et à mesure que ce que nous avions s'est déjà passé.
Seul soulagement pour l'hôpital, la tempête tropicale a été moins forte que prévu et des évacuations sanitaires vers Port-au-Prince ont pu être effectuées par avion. De quoi soulager l'hôpital des Cayes.
Boris Loumagne à Haïti pour France Inter. Qui accueillera les milliers d'Afghans en exil? Le Royaume-Uni en partie. C'est en tout cas la promesse faite hier soir par le gouvernement britannique qui s'engage à accueillir 20 000 réfugiés afghans à long terme. Nous avons une dette envers tous ceux qui ont travaillé avec nous, estime Boris Johnson. Tandis qu'en France, Emmanuel Macron maintient un discours de fermeté face aux flux migratoires irréguliers, prévient-il. Fermeté réaffirmée hier soir en déplacement à Bormes-les-Mimosas. À 8 mois de la présidentielle, hors de question de se laisser déborder à droite, même si cela suscite la réprobation à gauche. Les maires écologistes de Lyon, Grenoble et Strasbourg se disent ainsi prêts à accueillir des réfugiés afghans, des maires socialistes aussi, à la star d'Olivier Bianchi, l'édile de Clermont-Ferrand.
On avait accueilli des Kurdes qui sont très bien intégrés. Lors de la dernière guerre, on a accueilli des Syriens. Et donc pour nous, la question des réfugiés, c'est la tradition de notre ville. Donc les mairies, les collectivités locales ont montré et montrent dans les crises que traverse notre société, qu'elles soient sanitaires ou qu'elles soient sociales, qu'elles soient internationales, que nous sommes aussi des terrains d'engagement. Et donc oui, on dit à l'État, vous pouvez compter sur les communes. Pour certains d'entre nous, on est en capacité de rendre possible cet accueil, et donc on prend notre part.
Olivier Bianchi, maire PS de Clermont-Ferrand, au micro de Victoria Coussa. Pour l'heure, 41 Françaises et ressortissants de pays partenaires exfiltrés d'Afghanistan sont arrivés à Paris. La France souhaite encore rapatrier quelques dizaines d'Afghans ayant collaboré avec l'armée française, précise la ministre des Armées, Florence Parly. Les Occidentaux qui tergiversent également face aux nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Les talibans jouent la carte de l'apaisement lors de leur première conférence de presse. Les Afghans ayant travaillé avec les Occidentaux ne seront pas menacés, disent-ils. Les femmes pourront continuer à travailler, à étudier. Quant aux médias privés, ils seront libres et indépendants s'ils travaillent pour l'unité de la nation, promettent les combattants islamistes. Mais pas de quoi rassurer la population qui a pris massivement la fuite ces dernières semaines à mesure de l'avancée des talibans. Et sur place, les ONG doivent faire face à la crise humanitaire. Marion Ferrer.
Activité suspendue pour Action contre la faim pour 2 semaines au moins. Le temps de mettre à l'abri ses 300 employés et de lever des fonds. Pour Pierre Micheletti, président d'ACF, l'urgence sanitaire existe déjà.
C'est faire face à des besoins primordiaux, c'est-à-dire permettre aux gens de se protéger des intempéries, avoir un minimum d'alimentation. On ne peut que s'attendre à une augmentation des besoins sur un pays qui était déjà un des plus pauvres et avec les indicateurs de santé et de nutrition parmi les plus dégradés des pays en développement.
À Kaboul, l'hôpital français, géré par la chaîne de l'espoir, espère fonctionner le plus longtemps possible. Idem pour Médecins sans frontières, très présent dans les provinces et sur les lignes de front. Claire Adouang est responsable des opérations dans le pays. Son inquiétude désormais, le financement des programmes.
La Banque mondiale, comme les Nations unies ou les gouvernements américains, l'Union européenne, qui finançaient beaucoup de projets de santé, on ne sait pas s'ils vont continuer à les financer ou pas.
Situation plus compliquée pour les associations défendant l'accès à l'éducation. Dans les années 90, les talibans avaient interdit aux femmes de s'instruire. L'une des ONG les plus importantes, Women for Women, a pour le moment stoppé toutes ses opérations.
Marion Ferrer. Dans le Var, le Mistral faiblit, mais le feu n'est toujours pas fixé. Actif depuis lundi soir, le plus gros incendie de l'été a déjà calciné la moitié du massif des Morts. Près de 4000 hectares de végétation ont brûlé. Image de désolation dans un cadre habituellement paradisiaque. Plusieurs habitations ont été détruites. 7000 personnes évacuées viennent de passer leur seconde nuit en centre d'accueil. 1200 pompiers sont toujours mobilisés. Les flammes qui ravagent également la forêt à Baume-sur-Venise, dans le Vaucluse. Après une accalmie, le feu a repris ce matin. 260 hectares sont déjà partis en fumée. 2000 malades du Covid sont désormais en réanimation, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis la mi-juin. Les autorités sanitaires dénombrent plus d'une centaine de morts ces dernières 24 heures. Un chiffre à relativiser en raison d'un rattrapage de ce décompte lié au week-end du 15 août. Reste que pour lutter contre l'épidémie, deux outils, la vaccination et le pass sanitaire, réclamés depuis lundi dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, mais qui, pour flasher les QR codes à l'entrée, les professionnels cherchent à recruter les contrôleurs et la demande explose, Maxime Debs.
Chez Synergie, spécialiste de l'intérim, plus qu'un savoir-faire, c'est du savoir-être que Sébastien Collard recherche chez les candidats qu'il reçoit.
Ça demande forcément des personnes pédagogues, parce que vous imaginez qu'elles ont affaire à un public qui souvent peut être en questionnement, voire même en agressivité. Des gens incorruptibles, parce que vous imaginez bien qu'ils sont sollicités par des gens qui veulent éventuellement resquiller.
Parmi ces clients en recherche active, les hôpitaux, les EHPAD, les grands magasins, les parcs d'attractions, mais aussi les clubs de foot avec la reprise de la Ligue 1, il y a 10 jours, la demande est colossale.
Colossale parce que un agent peut contrôler aujourd'hui 180 personnes à l'heure à peu près. Donc faites le calcul, si vous avez 10 000 spectateurs, rapidement, ça peut demander beaucoup de ressources.
Des ressources, même si pour l'instant ça va, dont on imagine qu'elles pourraient venir à manquer en Île-de-France notamment, dans les prochaines semaines.
Les gens vont venir forcément de vacances à partir de la semaine prochaine et je pense que les tests vont être de plus en plus importants. On a quelques centaines de demandes effectivement par jour et je pense que ça va s'accentuer dans les semaines qui viennent avec la rentrée.
Une demande que le secteur de la sécurité privée ne peut assumer seul, en tension déjà. De nombreux vigiles sans emploi ces derniers mois ont quitté la profession. Pas encouragé par ailleurs à y rester du fait de bas salaires, selon les syndicats.
Maxime Debs, et le secteur de la sécurité privée manquerait déjà de plus de 15 000 à 20 000 agents. Plus de détails sur ce sujet retrouvés sur franceinter.fr.
7h39, quand une affaire judiciaire en cours s'invite sur grand écran.
Le film Bac Nord de Cédric Jiménez sort aujourd'hui en salle. Le long métrage retrace une histoire bien réelle qui a fait vaciller la police marseillaise en 2012. 18 policiers d'une même unité de la brigade anticriminalité placés en garde à vue pour corruption, raquette, trafic de drogue. L'affaire jugée en avril dernier n'a pourtant débouché que sur quelques condamnations de la prison avec sursis et des relax. Les accusations ont été largement dégonflées, mais l'affaire a considérablement enrayé la méthode employée par les policiers pour faire du chiffre, musclé, pour ne pas dire borderline. Emmanuel Leclerc.
Une gangrène au sein de la police, c'était les mots assassins du procureur de l'époque à Marseille, évoquant des super flics devenus à leur tour des caïds, des cow-boys ripoux à la gâchette, trop faciles, violents, cupides, trafiquants de drogue évidemment. C'est pourtant le même procureur qui, quelques mois plus tôt, venait boire des coups avec ses gars, dit un ancien policier marseillais. Lorsqu'il saisissait des dizaines de kilos de cannabis, de cocaïne, sans parler de kalachnikov, découverte dans un coffre de voiture par exemple. Mais tout le monde a fait semblant de croire que c'était de la chance, du hasard, et pas grâce à des informateurs non déclarés. déclaré très bien rémunéré avec une bonne partie des saisies hebdomadaires de cash et de stup. Un proche du dossier rappelle que les volets corruption et enrichissement personnel ont en revanche fait pchit. Il y a bien cet exemple, une écoute où l'on entend un policier renifler un sachet de drogue et dire à son collègue « putain, ça sent » avec l'accent marseillais. Mais le commissaire de la police des polices note sur son procès verbal 500 euros volés à des dealers, sans que l'on sache encore aujourd'hui si ce commissaire s'est trompé de bonne foi ou s'il voulait charger délibérément les flics de la BAC Nord.
Emmanuel Leclerc, BAC Nord, le film, on en reparle dans quelques minutes avec l'acteur Gilles Lelouch, invité d'Hélène Roussel. Autre enquête cette fois-ci, au cœur d'un livre, Au printemps des monstres, de Philippe Génada, revient sur un fait divers sordide en 1964, la mort de Luc Taron, un petit garçon de 11 ans, meurtre pour lequel Lucien Léger passera 41 années derrière les barreaux. Ilana Mor-Youssef, dans cet ouvrage monumental, Philippe Génada reprend l'enquête à zéro.
Il n'a de sympathie particulière ni pour la victime ni pour le coupable. Il ne se voit pas comme un justicier. D'ailleurs, s'il avait su que ce livre lui demanderait 4 ans de travail, Philippe Génada ne se serait sans doute pas lancé. Alors pourquoi ?
Au début, c'est très simple. Il y a un personnage qui est le diable incarné, qui est le monstre, Lucien Léger, qui tue un enfant pour rien, qui a l'air très content de lui. Et toute la France, d'ailleurs, à juste titre, ne se prive pas de le désigner comme l'incarnation du mal et du démon. Et en fait, quand on époussette un peu autour, on se rend compte que tous les gens qui avaient l'air, a priori, soit de représentants de la justice, de l'ordre ou les parents, en fait, ce sont eux les véritables monstres.
Philippe Génada ne va pas jusqu'à dire formellement que Lucien Léger n'a pas tué le petit Luc Taron, mais à lire son livre, on se rend compte qu'il y a de sérieux doute. Au-delà de cette question, c'est une époque qu'il fait revivre, celle de la France des années 60, dont il essaye de saisir les traces.
Ce qui me fascine, je serais désespéré jusqu'à ma mort de ne pas être Patrick Modiano, ce qui me fascine, c'est les choses qui disparaissent, le passage du temps, les fantômes, etc. J'ai besoin toujours de trouver un lien entre le présent et le passé.
Un passé qui n'est pas ce qu'il a l'air d'être, derrière un glorieux résistant, un sinistre collabo, derrière une folle internée à l'asile, une jeune femme pleine de fantaisie, derrière un coupable idéal, peut-être un type qui a payé pour d'autres.
Ilana Mor-Youssef, Au printemps des monstres de Philippe Génada, publié chez Mial et Barreau, est à retrouver dès aujourd'hui chez vos libraires.
C'était le journal de Julie Paco, l'édito éco à suivre.